Hugues Lemaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Diamant Bleu Gestion. On va parler avec vous de marché, de perspectives sur ces marchés. Peut-être qu'on peut s'arrêter sur la dernière actualité en date. Visiblement, la réserve fédérale américaine a fait un petit peu peur aux investisseurs. Comment vous abordez-vous, je dirais, cette année 2013?
Alors, c'est un point très important et intéressant que vous mentionnez sur la réserve fédérale américaine. Il faut vraiment aller à la source des informations qui sont données, qui sont très complètes dans les textes qui nous sont fournis. Moi, je suis un peu surpris du traitement médiatique qui est réservé ce matin à ces annonces. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Je vais essayer d'être rapide. Mais il est assez indubitable que la situation s'améliore. On est sur des rythmes de croissance trimestrielle aux États-Unis annualisé de l'ordre de 4%, et ce maintenant depuis, alors 2010 était plus faible, mais 2011-2012, depuis 2 ans. On venait de beaucoup plus bas en 2009. Le marché immobilier américain se reprend, et là encore une fois je n'invente rien, je vous livre les conclusions de ce rapport. Le marché de l'emploi reste fragile, mais il se redresse. Et le point donc de départ, une croissance qui est plus forte. Dans ces conditions, et poser la question de savoir s'il faut toujours injecter dans l'économie américaine 85 milliards de dollars par mois. Alors, on me parle ce matin de dissensions. Deux autres remarques. Les dissensions. Mais il y a toujours des dissensions au sein de la réserve fédérale. C'est normal, d'autant qu'on est dans un régime de politique dite non conventionnelle. Donc, quand ce n'est pas conventionnel, ça crée des dissensions au sein du comité. C'est normal, c'est classique. Deuxièmement, on me parle de doutes quant à l'efficacité de ces 85 milliards. Est-ce qu'il faut les retirer parce que l'économie va trop bien ou est-ce qu'il faut les retirer
Parce que ça
parce qu'on a
sert
des
pas.
doutes sur l'efficacité des mesures?
Oui, on en a
Mais
parlé
de
déjà
même,
sur les précédents quantitative easing.
absolument. Alors, nous, on a fait beaucoup de recherches sur cette communication de la Fed, sur les textes qui nous sont fournis, sur la façon dont la Fed travaille, puisqu'on a eu des documents sur l'année 2007 qui ont été rendus publics il y a peu. Il y a toujours dans la démarche de la Fed une démarche à la fois pragmatique et une démarche d'essai qui consiste à aller un pas en avant, regarder ce qui se passe, changer un peu la direction, faire évoluer la politique monétaire. Donc vous avez toujours des dissensions quand ce n'est pas habituel comme politique et des questionnements sur l'efficacité des mesures. En ça, il n'y a rien de nouveau. Moi, j'aimerais vous proposer un scénario qui est beaucoup plus simple. Qui est assez contrariant, et enfin troisième défaut, qui est un peu plus optimiste. C'est que compte tenu de l'amélioration de la situation économique américaine qui est palpable, et je vais après passer à la Chine, enfin brièvement sur la Chine, la situation elle est objectivement meilleure également, eh bien la réserve fédérale américaine commence à se poser la question de réduire la voilure. On avait déjà eu un premier avertissement le 3 janvier qui n'avait pas été pris au sérieux par le marché. On en a un deuxième, on en aura d'autres. C'est donc plutôt positif.
Alors
Ça veut
c'est
dire quoi? Ça veut
oui.
dire que sur le marché, on va avoir des à-coups parce que le marché n'aime pas entendre parler de réduction des masses monétaires. Ça veut dire que sur certains secteurs du marché, on va avoir encore plus d'à-coups, et je pense évidemment aux matières premières par exemple. Ça veut dire que le scénario de baisse du dollar et de hausse de l'euro, parce qu'on aime bien en zone euro se faire peur et évoquer des scénarios négatifs. Donc on parle d'un euro 1,50, 1,60. Il n'est pas du tout assuré ce scénario. Je propose un autre scénario plus contrariant d'un euro qui poursuivrait sa baisse contre le dollar et ou qui serait relativement stable contre le dollar.
Ça va faire des heureux, vu les, en tout cas les commentaires en Europe, où il y avait effectivement beaucoup de craintes.
Absolument, absolument. C'est plutôt positif. Mais pour conclure également sur ce marché, donc vous voyez, moi j'ai un point de vue plutôt positif, mais pas de l'optimisme béat. Hein, on va parler plus précisément de notre positionnement sur ces marchés. Puis il y a un point noir qu'il faut évoquer pour finir, parce que j'ai commencé par la Fed et poursuivi par la Chine. Il faut malheureusement terminer par l'Europe, où la situation est quand même moins bonne.
Là, on a oui, des chiffres.
S&P a salué des efforts qui ont été réalisés par la France hier. Ça, on n'en parle pas beaucoup non plus. Mais les chiffres restent mitigés. Je pense notamment, pour n'en citer qu'un, qui sont les taux de chômage, notamment dans les pays du Sud, mais également en France, qui ne sont pas satisfaisants. Donc on a un risque en Europe, et ça, il n'est pas évoqué ce risque, mais le risque est la déflation, il n'est pas l'inflation, compte tenu des taux de chômage que l'on a. Mais ça a été relativement bien pricé dans le marché, puisque les actifs de la zone euro sont, on a étudié ça sur les 10 dernières années, les moins chères au monde, hein, de toute façon. Donc ça, au moins, les mauvaises nouvelles, le marché s'en est rendu compte.
Alors, vous dites donc la Fed, en quelque sorte, aujourd'hui, ou, enfin, devrait, ces différentes déclarations devraient ouvrir les yeux des investisseurs qui étaient restés encore sur cette politique de taux d'intérêt très bas. On a... Ça va rester jusque 2015, en tout cas pour l'instant. Par contre, on a des retraits de liquidités qui vont heurter les marchés.
La question de la réduction de la balance sheet de la réserve fédérale américaine commence à être posée. C'est ça la nouveauté. Ça va créer de la volatilité sur le marché, mais on le savait qu'il y aurait de la volatilité sur le marché cette année. Néanmoins, c'est le développement... et un cadre économique et monétaire plutôt positif, quoi qu'on dise, qu'on le veuille ou non. Parce que le scénario, les anticipations de marché des acteurs actuellement sont très négatives, sont assez noires. On a eu l'esquisse d'un consensus positif en début d'année 2013 en Europe. Vous voyez bien dans les fonds que c'est faux. Personne n'a acheté ce marché d'actions.
Non, il y a eu très peu de volume.
Donc, quelques-uns ont dit qu'ils étaient plus positifs sur le marché, etc. Il n'y a pas eu du tout, à part ces quelques paroles, de consensus. Ça, c'est une thèse que moi, je n'avais pas du tout achetée. C'est-à-dire qu'on a bien vu, il n'y avait pas d'achat sur le marché. Nous avons été acheteurs sur ce marché. Et il y a eu des très belles opportunités d'achat. Mais le cadre est clairement, tout de même, plus positif, il s'améliore.
Donc on aura effectivement des nouvelles plus positives du côté des États-Unis. L'Europe, ce n'est pas le cas. Pour on a bien senti beaucoup d'investisseurs en début d'année, enfin déjà l'année dernière, fin d'année 2012 et début d'année 2013, dire qu'effectivement, il fallait prendre du risque, donc aller sur ces marchés actions. On a eu quand même une grande différence entre la performance américaine et la performance des marchés européens. En 2013, si vous dites que c'est heurté, quel est le scénario d'investissement justement ?
Ce qui est très intéressant dans la situation actuelle, ça il faut vraiment que les personnes qui nous écoutent le sachent, c'est qu'on raisonne constamment, quand on parle des marchés, en indices. Alors on dit l'indice Eurostox, l'indice S&P. Prenons l'exemple de l'Europe. Qu'est-ce qui est intéressant en Europe ? C'est que le marché ne vaut rien au niveau indiciel global, les actions européennes, personne n'en veut. Ça a fait zéro, il faudra enlever l'inflation, ce serait plutôt moins 20 depuis 10 ans. On a jeté tous les bébés avec l'eau du bain sur la zone euro. Donc ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter le marché européen ? Non, on n'a jamais dit ça. Ce que ça veut dire, c'est que dans un environnement où l'ensemble des actifs est totalement mispricé, n'est pas au prix, n'est pas cher du tout, vous allez avoir de très belles opportunités d'achat. Très brièvement, on distingue trois groupes sur ces marchés de la zone euro. Je serai bref après sur les États-Unis. Je peux vous donner le contre-exemple. Sur les États-Unis, on dit le marché américain a très bien marché.
Oui.
Non, GE, Caterpillar, les méga caps américaines qui ont des rendements très intéressants et qui sont sous-valorisés n'ont pas spécialement bien marché.
Donc là, il y a les indices.
Donc, je fais exprès de prendre le contre-pied sur les US. Mais sur la zone euro, il faut distinguer trois groupes. Vous avez des valeurs qui ont bien marché, le luxe, la pharma. Donc celles-là, elles ont monté. Si on reprend l'exemple sur les 10 ans, elles ont pris 100% sur 10 ans. Vous avez un deuxième groupe qui sont des valeurs qui ont mal marché, et j'ai le secteur en tête, qui sont les services aux collectivités, les fameuses utilities, et les télécoms. Mais c'est normal, c'est des secteurs qui sont intrinsèquement, posent des problèmes, qui sont à problème. Concurrence exacerbée, capex de plus en plus élevé. Et enfin, vous avez un troisième groupe qui est celui qui nous intéresse chez Diamant Bleu. Ce sont les valeurs qui sont totalement décotées, mais pour le coup, pour des mauvaises raisons.
Et là, qu'est-ce qu'on trouve peut-être le mot de la fin là-dessus ?
Le mot de la fin, c'est que dans ce secteur de ces valeurs décotées, on va trouver des valeurs, nous, ce qui nous intéresse dans ces périodes d'instabilité dont je parlais en zone euro, qui ont des rendements élevés, et c'est-à-dire qu'elles distribuent des cash flows régulièrement aux investisseurs, ça c'est la première chose, qui ont des rendements pérennes, deuxième chose, donc pas de capex excessif, pas de risque concurrentiel, réglementaire, et troisièmement, évidemment, qui ne sont pas à leur prix, à leur valorisation, on va dire, le fameux fair price, qui ne sont pas à leur prix, qui sont sous-valorisés.
Si vous deviez citer quelques valeurs que vous avez en tête ?
Alors, Je vais citer deux exemples. Il y en a un qui va être un peu, qui va être un peu optimiste, qui est celui des banques européennes. On a fait un gros travail sur les banques européennes, et vous avez une valeur comme Intesa Sanpaolo, qui a un rendement très élevé et une valorisation. Après, il faut voir de quel bout qu'on parle, etc., mais qui vaut en gros moins de la moitié de ses actifs. Est-ce que c'est normal, compte tenu des nouvelles que l'on a sur la zone euro, sur l'Italie, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas estimer qu'une banque, évidemment qu'elle vaut plus de deux fois son bout, je ne parle pas de Wells Fargo aux États-Unis, mais est-ce que Intesa ne devrait pas valoir peut-être deux tiers de son book? Vous imaginez de moins de 50% à deux tiers du book, la revalorisation que vous pouvez attendre sur Intesa, avec par ailleurs un niveau de dividende qui est très satisfaisant. Le deuxième exemple que j'ai en tête, c'est sur l'immobilier, sur lequel on a fait un gros travail au sein de notre fonds. Vous avez un secteur qui, notamment je pense en Europe de l'Est, donc Europe émergente, se porte plutôt bien, qui reste beaucoup moins cher que typiquement dans des pays comme la France, Europe de l'Ouest, qui vous verse des dividendes de l'ordre de 6%, et qui sont également des sociétés, à mon avis, mal valorisées. Les deux exemples que j'ai en tête, l'exemple de l'immobilier étant peut-être moins risqué que l'exemple des banques, mais il y a vraiment un travail à faire sur les banques européennes ces derniers.
Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous, Hugues Lemaire. On rappelle que vous êtes donc directeur général de Diamant Bleu Gestion.
Merci.